Loué et exalté soit le Seigneur notre Dieu pour toutes ses preuves de grâce et pour tout ce qu'il a déjà fait et pour tout ce qu'il va faire encore. Nous avons la grâce de nous remettre à lui. Il a un plan qu'il a fait avant même la fondation du monde. Et il accomplit ce plan. Il exécute cette grâce que nous pouvons louer, consiste à ce que nous avons la grâce d'être directement introduit, inclus dans son plan du salut. Et que réellement, nous avons la grâce d'être dans le royaume de Dieu et de voir tout ce que le Seigneur dans son royaume fait. Nous allons être courts avec les annonces. Et bref, je voudrais d'abord souhaiter la bienvenue à tous, particulièrement ceux qui sont là pour la première fois. Avons-nous des frères et des sœurs ici qui sont là pour la première fois? Alors, levez courtement les mains. Tous, ah oui, ici. Notre bien-aimée sœur, lève-toi. Lève-toi, oui. Nous te souhaitons particulièrement la bienvenue. Oui, je veux rien dire. Donc, tu es béni au nom du Seigneur. Amen. Amen. Oui. Là-bas, nous avons encore quelqu'un. Oui, là-bas, là-bas, ici. Particulièrement, sûrement de la Slovaquie. Ensuite, sur le balcon aussi. Que Dieu le Seigneur nous bénisse et qu'il soit avec nous et qu'il ait son chemin avec nous tous. Et nous disons sincèrement que ta volonté soit faite. Pas ce que je veux, pas comme je le veux, mais ce que tu veux et comme toi tu le veux, que cela se passe ainsi. Hier, soit j'ai oublié de remettre des salutations, le frère Wallström remet toujours des salutations, le frère Graf, le frère Étienne, j'entends des salutations de Nairobi, de Johannesburg, de Kapstadt, de partout, oui, du monde entier, c'est ainsi qu'on pourrait le dire. Ensuite, le frère Schmidt nous a remis des salutations des Ukraines, de la Moldavie, du Ouzbékistan, et vous savez que nous avons à Kazakhstan une émission dans la langue russe, et réellement elle est écoutée de beaucoup jusqu'à Vladivostok, la dernière ville dans l'Union soviétique, on peut réellement de là regarder dans le Japon jusqu'à là-bas. Les émissions arrivent. Nous sommes reconnaissants, très reconnaissants au Seigneur, notre Dieu, et même ce matin, ainsi nous saluons tous ceux qui sont liés avec nous et avec le Seigneur, aussi au Chili. Ils ont écouté et ils ont vu la réunion hier, tous se réjouissent avec nous et dans le Seigneur. Ensuite, nous avons, Dieu voulant, à la fin de ce mois, nous aurons des réunions particulières. Et cette fois-ci, nous avons aussi une réunion à Ingolstadt, dans la ville de Ingol. Celui qui connaît un peu l'Allemagne saura où cela se trouve. Nous avons normalement quelque part une carte. Si je ne me trompe pas, sur l'autoroute A9, entre Nuremberg et Munich. Et donc, au milieu du chemin se trouve la ville de Ingol, et on sort par le nord, une fois à droite, une fois à gauche, et encore à droite et à gauche, et on est déjà dans l'église. Et cette fois-ci, dans une église luthérienne, Dieu a conduit les choses ainsi. Notre frère Tigle l'avait dans le cœur que la parole de Dieu dans la ville soit prêchée, et cela s'est passé ainsi. Qu'avec les responsables de l'église et le pasteur évangélique là-bas, il a été prévu que d'abord il y ait une salle qui soit louée. Mais le pasteur là-bas a dit, si c'est une prédication qui doit être tenue, il faut qu'elle soit tenue dans l'église. Alors c'est ainsi qu'elle sera tenue dans l'église avec l'aide de Dieu. C'est l'église tout à fait luthérienne, protestante. J'ai pas de problème avec cela. J'ai prêché dans beaucoup d'églises, même aussi dans des églises orthodoxes. Une fois même dans une église catholique, j'ai prêché. Et après la messe du dimanche à Windhoek en Afrique du Sud, et 65 personnes à la fin de la prédication ont levé leurs mains pour accepter Jésus-Christ en tant que leur sauveur personnel, et nous leur avons donc envoyé des littératures. Donc ne l'oubliez pas encore une fois, et le frère Ziegler le connaît, on le connaît tous. S'il pouvait maintenant se lever. Oui, voilà, ça c'est le frère Ziegler. Tourne-toi s'il te plaît au peuple, celui qui veut aller à cette réunion, particulièrement tous les jeunes qui iront à Losbourg. Nous leur demandons de venir. Et ici, c'est la description exacte. Celui qui veut la voir peut tout à l'heure la voir. Ensuite, ça c'était vendredi soir, le 27 octobre, Dieu voulant. Nous disons toujours Dieu voulant. Et ensuite, samedi, le 28 octobre, nous serons à Salzbourg, en Autriche, à l'hôtel Schaffenrath, la vieille rue au numéro 115 jusqu'au numéro 117. Nous invitons tous ceux qui peuvent venir. C'est toujours un bon soutien pour une réunion quand les frères et sœurs aussi viennent. Nous avons aussi des invitations donc ici que nous avons pu faire pour cette réunion qui aura lieu dans la ville de Ingold. Et celui qui veut repartir avec une invitation peuvent le faire. Ceux qui veulent repartir avec une invitation peuvent le faire. Nous avons donc plus rien à annoncer, à mentionner en ce qui concerne les événements actuels. Tous vous écoutez les nouvelles. Sûrement que je les écoute moins que vous tous parce que je n'ai pas le temps. Mais la chose la plus importante, je les apprends aussi de tout ce qui se passe sur Terre. Et si je ne les écoute pas ou bien je ne les apprends pas, alors on m'envoie des emails pour que je puisse, n'est-ce pas, le savoir. Qu'est-ce qu'on doit dire à tout ce qui se passe? Les religions sont en train de s'unir. Tous ces différents ponts sont en train d'être construits. C'est ainsi qu'il est dit ici. Le pape est constructeur de ponts, hein, d'amitié. Les ponts sont bâtis à tout, pour chacun un pont. Et c'est ainsi qu'ils ont la possibilité de revenir et de venir. Et ils viennent aussi tout à fait volontiers. Ici, il y avait 40 représentants des États islamiques dans sa résidence particulière. Il leur a dit à tous les choses correctes. Et ça ne peut pas être différent. Nous observons tous les prophéties bibliques. Sinon, nous n'allons même pas mentionner toutes ces choses. S'il n'y avait pas Israël, et si tous les adversaires autour d'Israël n'existaient pas, comme les Saintes Écritures l'ont dit et le disent, même jusqu'à cette écriture-là de Zacharie chapitre 12, du verset 2 au verset 3, que Jérusalem sera une pierre pesante pour tous les peuples. Zacharie 12, verset 2 et verset 3. Et tous les autres versets qui, n'est-ce pas, rendent témoignage que Dieu, à la fin des jours, ramènera son peuple éparpillé de tous les peuples et langues et les nations rassemblera. C'est ainsi que cela est écrit dans Ésaïe 14, verset 1. C'est ainsi que c'est écrit dans Jérémie 31, du verset 1 au verset 10. C'est ainsi que c'est écrit dans Ézéchiel, chapitre 36, 37 et 38. Ce sont trois chapitres qui s'occupent particulièrement du rassemblement d'Israël et s'occupent particulièrement de ce que Dieu va faire en eux et parmi eux, même jusqu'à l'effusion du Saint-Esprit, sur Israël. C'est écrit dans Ézéchiel 39. C'est ainsi que Dieu n'aura plus sa colère sur eux. C'est ainsi que les dernières paroles et versets dans Ézéchiel 39 s'intitule du verset 27 au verset 29. Tout ordonné par Dieu dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans Luc chapitre 21 au verset 24, dit notre Seigneur que Jérusalem sera foulée et éparpillée. Le peuple d'Israël sera éparpillé dans tous les peuples. Et oui, jusqu'à que les temps des nations soient passés, et le monde entier sait que depuis 1948, depuis le 14 mai 1948, alors que Ben Gurion avait déclaré, n'est-ce pas, l'État d'Israël, avait annoncé, publié, c'est ainsi que nous avons depuis cette date un pays, un État d'Israël avec le drapeau de David qui flotte, je peux très bien me rappeler, alors qu'en 1964, pour la première fois, j'avais été à Jérusalem dans l'hôtel King Davis et que j'avais vu ce drapeau énorme avec l'étoile de David. C'est vraiment merveilleux de ce que Dieu veille sur sa parole. Et nous sommes, comme souvent nous avons eu à le dire, nous ne sommes pas seulement dans la fin des temps, nous sommes arrivés à la fin de la fin de ces temps. Et personne, n'est-ce pas, connaît le jour et l'heure, mais le Seigneur l'a dit et nous avons compris. Quand vous verrez que tout cela s'accomplit, levez vos têtes, car vous savez que votre rédemption est proche. Et nous ressentons comment est-ce que le Seigneur appelle les derniers à sortir de tous les peuples, les langues et les nations. Nommez-moi un endroit, un lieu sur terre où des personnes de plus de 20 à 30 nations sont rassemblées pour écouter la parole du Seigneur. Il y en a qui entreprennent des voyages pour aller d'une nation à une nation pour prendre part à un stade, à un foot, à un match de football ou bien à d'autres occasions. Mais qui va de pays en pays pour écouter la parole du Seigneur? Et Dieu l'avait promis et l'a promis. Il y aura des jours qui viendront où j'en verrai une fin. Une fin, pas d'après le pain, mais pour écouter la parole du Seigneur. Une soif, pas d'après l'eau, une soif d'après Dieu, pour écouter la parole de Dieu. Et qu'est-ce que nous avons écrit dans la dernière brochure en tant que titre choisi? Les hommes posent des questions, mais Dieu, lui, y répond par sa parole. Nous ne voulons pas d'autres réponses. Vraiment, seulement la réponse divine de la parole de Dieu. Encore aujourd'hui, on m'a posé la question, est-ce qu'il y aura un service de baptême? Nous avons ici des frères et des sœurs de l'Iran. Ils veulent se laisser baptiser. Dieu appelle que là, de cet endroit, il y a un président de l'Iran qui dit que l'État d'Israël n'a pas le droit d'exister, ou bien ce que les hommes disent, ça n'a aucune importance. Le Seigneur, lui, il appelle à sortir, malgré tout. Et notre frère Étienne, Jenton est toujours de nouveau en Iran, ou bien alors en Arménie, et là-bas, il y a des personnes. Donc, nos frères et nos sœurs, aussi dans ces différents pays-là, reçoivent la nourriture. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour cela, de ce que tous ces frères-là qui croient le message portent la parole du Seigneur de cette manière, telle que Dieu, par frère Branham Nouvelle, l'a révélé. On doit rester avec la vérité, dans la vérité, telle que Dieu autrefois avait d'une manière particulière avait pu utiliser Paul pour établir, pour exposer tout le conseil du salut de Dieu aussi dans l'église en ce qui concerne les dons avec les ministères, de mettre toutes choses à leur place, C'est ainsi que frère Branham a été utilisé par Dieu pour nous ramener au commencement, à l'original, jusqu'à la pleine restauration et le plein rétablissement de tout ce qui existait au commencement dans l'Église. Dieu l'a promis. Il a dit, je vais vous restituer tout, et il se tient sur sa parole. S'il vous plaît, croyez la parole de Dieu de tout votre cœur. Ça apporte la bénédiction de croire ce que Dieu, dans sa parole, a promis. Chantons encore, tu es digne, tu es digne. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je voudrais lire une parole dans 1 Timothée, le chapitre 6. Nous avons écouté la parole et lu la parole de 1 Corinthiens, Paul, un apôtre de Jésus-Christ, appelé par la volonté de Dieu. Ici, dans l'épître de Paul adressée à Timothée, il est écrit dans 1 Timothée, le chapitre 6, au verset 14, au verset 13, « Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate. De garder le commandement et de vivre sans tâche. En allemand, d'accomplir l'ordre que tu as reçu et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Que manifestera en son temps le bien-aimé, le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir. À qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Tous nous disons Amen. Nous remarquons la profondeur d'un tel ordre, d'une telle parole. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses. Et devant Jésus-Christ, verset 13, encore une fois, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate. Et ensuite, il s'agit du ministère, donc de l'ordre qui doit être exécuté, accompli sans tâche, sans rite, pour rester sans tâche. C'est-à-dire de ne pas tordre, ne serait-ce qu'une seule parole, de ne rien interpréter et de ne rien expliquer, mais la parole originale, de la prêcher telle qu'elle est sortie de la bouche de Dieu, de la transmettre au peuple de Dieu. De cette manière, de garder le commandement. C'était le commandement de tous les prophètes et de tous les apôtres. C'était pas la parole d'Ésaïe ou bien de Jérémie, c'était la parole du Seigneur. C'était le ainsi dit le Seigneur. Et c'est ainsi que nous mettons toute notre confiance dans cela. Parce que nous savons que c'est Dieu qui a parlé par la bouche des hommes, par la bouche des prophètes et des apôtres. C'est ainsi que nous mettons toute notre confiance dans la parole de la Bible pour nous la transmettre. Dieu les a utilisés pour nous la transmettre. Et si nous chantons « tu es digne », cela nous rappelle Apocalypse, chapitre 5, verset 2, où il est écrit que personne n'était digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et ensuite, il est écrit, le lion de la tribu de Juda a vaincu. Et ensuite, l'agneau a pris le livre et a rompu les sept sceaux. Cela s'est passé dans notre temps. Et ce qui est merveilleux, c'est que les saintes écritures rendent témoignage de ce qui s'est passé dans un laps de temps. Celui qui veut savoir ce qui s'est passé du temps de Noé a seulement besoin de lire. Celui qui veut savoir ce qui s'est passé dans le temps d'Abraham peut le lire. Celui qui veut savoir ce qui s'est passé dans les jours de Moïse a seulement besoin de le lire. Celui qui veut savoir ce qui s'est passé au commencement de l'Église, au commencement de la Nouvelle Alliance, au commencement du Nouveau Testament, a seulement besoin de le lire. Un homme envoyé de Dieu a apparu. Son nom était Jean. Et tous devaient croire par lui. Celui qui veut savoir ce qui s'est passé par le ministère de notre Seigneur peut le lire dans 4 exposés de l'Évangile. Celui qui veut savoir ce qui s'est passé sur la croix à Golgotha et ce qui est lié à cela veut le lire. Celui qui veut savoir ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte peut le lire. Celui qui veut savoir ce qui s'est passé dans les Actes des Apôtres peut le lire. On peut tout lire. Mais nous voulons savoir ce que Dieu fait maintenant, ce qu'il a promis pour notre époque, pour notre temps. Nous sommes fortifiés par tout ce que Dieu a fait. Cela nous fortifie dans la foi, dans la conviction que celui qui dans tout le passé s'est révélé aujourd'hui est encore resté le même et est le même. Et que nous n'avons pas besoin de regarder dans le passé triste, de manière triste et dire « Oh bien-aimé Dieu, tu as fait tant de choses dans le passé et nous repartons vite, sans effet de ta parole. » Non, nous ne repartons pas sans effet de ta parole. Les choses les plus grandes viennent encore. Les choses les plus puissantes viennent encore. La fin sera plus grande et puissante qu'était le commencement. Dieu s'est conservé d'achever lui-même son œuvre. Nous faisons que prêcher sa parole, les promesses et tout ce que Dieu dans sa parole a dit. Mais l'achèvement, la fin, c'est Dieu lui-même qui la fera. À cela, je voudrais lire quelques versets bibliques de l'Ancien et le Nouveau Testament pour nous montrer que nous devons exercer la patience, car ce ne sont pas nous qui achèverons son œuvre, c'est lui-même qui achève son œuvre. Ésaïe 28, versets 21 et 22. Car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Pératim, il s'irritera. Pas un prophète, pas un grand homme de Dieu, pas un ministère particulier, l'Éternel lui-même se lèvera. Comme à la montagne de Pératim, il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre étrange. Pour exécuter son travail inouï. Ici, nous sommes rétablis dans l'exposé de la création. Le septième jour, Dieu a achevé son œuvre et a regardé que tout était très bien. Rien ne pouvait être amélioré. Maintenant, dans le septième âge de l'Église, à la fin du temps de la grâce, Dieu achève lui-même son œuvre. Et tel que nous sommes son ouvrage créé en Jésus-Christ notre Seigneur, comme c'est écrit dans Éphésiens, nous sommes son Église, l'Église des premiers-nés. Je voudrais encore aujourd'hui dire cela de manière très claire. Ici et pour tous dans le monde entier. Celui qui aujourd'hui croit ce que Dieu a promis pour ce temps reçoit d'avoir part à ce qu'il a promis et il a la certitude d'appartenir à l'Église, à l'épouse de l'agneau. Car seulement ceux qui prêtent l'oreille maintenant à ce que réellement l'Esprit dit à l'Église appartiennent au troupeau des vainqueurs. Donc, pas seulement de croire ce que Dieu a fait dans des époques passées, et aussi ça, je voudrais le mentionner, ça concerne l'ouverture des sept sceaux. Tous nous savons que le livre devait rester scellé jusqu'à la fin des temps, et puisque nous sommes arrivé dans la fin des temps, c'est ainsi que Dieu a veillé sur sa parole et a réellement ouvert les sceaux. L'une de mes rencontres avec frère Branham en décembre 62 était bénie. Le frère Branham m'avait demandé de tenir la réunion le matin dans le culte du matin et du soir dans son église, dans son assemblée. Et donc le lundi après ce dimanche là des deux réunions, il m'a dit personnellement que il doit partir en Arizona dans l'attente de ce que Dieu a promis. Et il est donc parti et vous connaissez tous le témoignage. Le nuage surnaturel est descendu. Et le septième ange, dans ce nuage surnaturel, s'est adressé à frère Branham et lui a dit qu'il doit repartir à Jeffersonville dans son assemblée pour et ou alors à cause de l'ouverture des sept sceaux. Ensuite, du 17 au 24 mars 1963, frère Branham a parlé sur les sept sceaux. Et maintenant, la question, à qui est-ce que les sept sceaux signifient quelque chose? À qui est-ce que cela a quelque chose à dire? Tout le monde religieux ne sait rien de ce que Dieu, dans notre temps, a fait. Et c'est pour cette raison qu'il faut que nous en soyons conscients. Quel privilège nous avons reçu de Dieu de justement apprendre et d'avoir part à ce que Dieu, aujourd'hui, pas dans les jours d'Abraham, de Noé, de Moïse, mais de ce que Dieu, le Seigneur, et cela en accord avec sa sainte parole, dans notre temps, par sa grâce, a fait. Que Dieu a toujours besoin de personnes pour transmettre son message, qui transmettent son message. Nous voyons ici comment est-ce que Paul a écrit à Timothée. Paul ne s'est pas considéré comme le seul qui est envoyé. Il écrit à Timothée et il lui dit à lui, Timothée, exécute l'ordre que tu as reçu, le ministère, le devoir. Toi aussi, reste sans tâche et sans reproche. Pas seulement les prophètes, pas seulement des grands apôtres et des grands hommes de Dieu, mais des personnes simples comme le frère Franck, comme le frère Rousse, comme le frère Schmitt, comme nous ici, des personnes simples. Nous exécutons notre ministère. Mais tel que à Timothée, il a exécuté son ministère, son ordre, en relation avec le ministère que Dieu, le Seigneur, avait accordé à Paul. C'est ainsi que Timothée avait exécuté son ministère, en accord avec le ministère de Paul. C'est ainsi que nous aussi, nous exécutons notre ministère avec tous les frères qui aujourd'hui sont ici assis à droite et à gauche, dans tous les peuples, les langues, les nations éparpillées. C'est ainsi que la parole de Dieu nous le dit. Dieu nous le dit par sa parole. Frères, exécutez le ministère que vous avez reçu de Dieu, sans tâche, c'est-à-dire sans interprétation, que nous puissions nous tenir devant lui, avec tous les apôtres et les prophètes, sans tâche et sans reproche. Que rien soit ajouté ou bien retranché ou bien interprété à la parole de Dieu. Mais que nous puissions exécuter notre ministère sans tâche et en restant toujours dans la parole de Dieu originale. Pas seulement dans Ésaïe 28 au verset 21 et 22, mais dans Romains 9, l'apôtre Paul a parlé de l'achèvement de l'œuvre de Dieu que le Seigneur s'est proposé de faire et d'exécuter. Romains chapitre 9 à partir du verset 28. Car le Seigneur exécutera sa parole pleinement et promptement sur la terre. Exécutera ce qu'il a résolu. Le Seigneur lui-même le fera. Les prophètes, les hommes de Dieu portent le message, prêchent les promesses, disent aux hommes ce que Dieu, dans son plan, s'est résolu de faire. Et ensuite, nous restons dans la patience jusqu'à ce que les derniers soient appelés à sortir, car l'achèvement, n'est-ce pas, aura lieu dans le monde entier au même moment. L'appel à sortir a lieu étendu sur plusieurs années, mais la fin, l'achèvement aura lieu et ce sera une courte œuvre. Mais au même moment, dans le monde entier, ça aura lieu dans l'église épouse. Au même moment, dans le monde entier, court. Et ce que Dieu fera va aboutir dans la résurrection des morts et dans l'enlèvement et dans la transformation de ceux qui sont restés vivants en Christ. Ensuite, nous avons la parole d'Hébreux, le chapitre 10 au verset 36, où il nous est dit que nous avons besoin de patience. Avoir patience, de la patience, nous faisons ce que Dieu nous a ordonné de faire. Nous exécutons sans tâche et sans reproche le ministère. Nous allons de ville en ville, de pays en pays, et nous portons le dernier message divin et nous laissons retentir l'appel, et celui qui a des oreilles qui puisse entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. La parole dans Hébreux chapitre 10 à partir du verset 36: car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Après d'avoir accompli la volonté de Dieu. Bénis frères et sœurs, ça c'est ce que nous voulons recevoir de tout notre cœur. L'achèvement de l'église épouse peut seulement avoir lieu en accord avec la volonté parfaite de Dieu et agréable, telle que cette volonté de Dieu nous est montrée et transmise dans les Écritures. C'est comme ça que l'achèvement de l'église aura. Nous ne pouvons pas attendre l'achèvement de l'église épouse par nos propres enseignements, nos propres interprétations, nos propres chemins, nos propres pensées. Non, mais tel que dans ce texte nous l'avons écrit, les hommes posent des questions. Dieu, lui, il répond par sa parole. C'est seulement dans la volonté de Dieu parfaite. Romains 4, verset 3. Que dit les Écritures? Toujours nouveau, Paul pose la question. Que dit les Écritures? Les Actes des Apôtres, chapitre 15, à partir du verset 15. Et encore plus loin, pour que... Et à cela s'accordent les paroles des prophètes. Alléluia. Il faut que cela soit en accord avec Dieu et sa parole pour que nous puissions arriver dans l'harmonie et l'accord total avec Dieu. Il faut que cela soit en accord avec toutes les paroles des prophètes et des apôtres. Encore une parole dans Hébreux, Hébreux chapitre 6. Pour nous représenter devant les yeux encore une fois cette certitude, conviction divine. Dieu, lui, il savait que il savait ce qu'il allait faire. Il savait ce qu'il faisait. Il savait ce qu'il s'était proposé de faire et ce qu'il exécutait. Écoutez, nous allons pas faire de commentaires là-dessus. Mais s'il vous plaît, écoutez attentivement. Quelle conviction sort de la parole de Dieu comme un fleuve. Hébreux chapitre 6, à partir du verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Est-ce que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, qui sait toutes choses, avait nécessaire de jurer par lui-même, de se placer lui-même sous un serment, que ce qu'il a promis, ce qu'il a dit, il dit, je jure par moi-même que ça, je vais le faire. Je vais l'accomplir. Est-ce que cela ne nous suffit pas? Alléluia. Est-ce que cela n'est pas puissant? Est-ce que c'est toi ou bien c'est moi qui a un droit de décider? C'est Dieu seul qui a le droit de décider. Il a juré par lui-même, quoi qu'il n'avait même pas le besoin de le faire, que ce qu'il a promis, ce qu'il s'est résolu de faire, il trouvera son accomplissement. Lui-même, il s'est porté garant. Il emporte la responsabilité. Le verset 15. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Ce que Dieu lui avait juré. C'est pas possible autrement. Il a obtenu. Vous aussi, nous aussi, c'est par la persévérance que nous allons obtenir ce que Dieu a promis. Cela va entrer en notre possession. Dieu nous l'accordera. Il s'est porté garant, il s'est placé sous un serment, pas seulement en face d'Abraham, mais tous les croyants dans toute la promesse d'Abraham. Il a juré de donner à toute la postérité d'Abraham ce qu'il a promis. Encore les versets 16. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous les différends. Et maintenant arrive ce qui est valable pour nous. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment. Est-ce que Dieu l'a fait de manière claire, de manière immuable? Est-ce qu'il nous a révélé sa parole? Oui. C'est peut-être raison que il apparaît pour la résolution. Il intervient par un serment avec plus d'évidence pour que aux héritiers, cela avec immuabilité, cela soit donné. Croyez-vous cela? Par sa parole, il a parlé avec nous. Et nous avons cru ce qu'il nous a promis. Il a intervenu par un serment, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution. Verset 18. Afin que par deux choses immuables, on parle parfois, immuable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas changer. On parle souvent de réalité. Quand les hommes parlent de réalité, ce n'est pas toujours obligé que ce soit des réalités. Ce qui est une réalité pour l'un n'est pas obligé d'être une réalité pour l'autre. Mais quand c'est Dieu qui parle de réalité, alors ce sont des réalités, des choses évidentes. Je le lis encore une fois. Verset 18. Afin que par deux choses immuables, donc on ne peut changer, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Oui. Qui est-ce que Dieu, à qui est-ce que Dieu peut mentir? Personne. Impossible que Dieu ait pu mentir. Nous trouvions un puissant encouragement. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Et pourquoi? Parce que nous avons été saisis par Christ, tel que Paul l'écrit aux Philippiens. Nous ne croyons pas parce qu'un homme, un prophète, a parlé avec nous. Nous croyons parce que c'est Dieu le Seigneur qui a parlé avec nous par sa sainte parole. Nous ne sommes pas des gens qui suivent un homme, mais qui suivent notre Seigneur. Lui qui a dit, suivez-moi, renie-toi toi-même et porte ta croix et viens et suis-moi. Un petit pont, un petit saut aux paroles de béatitude et tous nous pouvons nous examiner à quel point nous mettons déjà la parole de Dieu en pratique par l'aide de Dieu. Et personne n'a besoin de se décourager. Nous sommes sur le bon chemin à la suite du Seigneur jusqu'à que tout soit accompli, ce que Dieu dans sa parole a promis. Dans la prédication sur la montagne, le sermon sur la montagne dans Matthieu, nous avons, n'est-ce pas, toute cette liste, sauver, sauver sont les pauvres, en esprit sauver, sauver. Ça, c'est, n'est-ce pas, toute la liste jusqu'à où il est dit, sauvés sont ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et c'est de ça qu'il s'agit maintenant, de voir Dieu. D'un cœur pur. C'est seulement dans un cœur pur que toutes les autres choses peuvent s'accomplir et devenir une réalité. Tout le reste, sans que le cœur soit pur, dans lequel l'amour de Dieu doit être déversé par le Saint-Esprit, cela ne servira à personne. Car, complètement à la fin, et ça nous le savons tous, Dieu a donné des ordres, 10, des commandements 10 en tout, dans Exode 20. Mais ensuite, il y a un nouveau commandement dans Jean 13. Ça, je vais vous le lire. On peut observer tous les commandements, mais si on en transgresse un seul, on s'est rendu coupable de tous les autres commandements. Et ça aussi, nous voulons rapidement le mentionner. Mais ici, dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, notre Seigneur dit ici au verset 34, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc il a lu dans Matthieu 8, dans Matthieu 5 au verset 8 concernant le cœur pur, et ensuite maintenant, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Bien, mes frères et sœurs, il n'y a aucun prédicateur sur terre qui prêche le plein évangile qui la plupart du temps n'aurait pas parlé de l'amour. Ça, c'est le sujet général, l'amour. Mais maintenant, cela ne doit pas rester un thème, un sujet. Il faut qu'il soit mis en pratique. Bien, mes frères et sœurs, le temps est arrivé où chaque frère et chaque frères et chaque sœur et chaque sœur peuvent se mettre le bras, donc se serrer dans les bras et dire « Je t'aime ». Nous devons avant que l'amour de Dieu se déploie par nous, réellement, nous devons de notre cœur sortir toute pensée qui existent qui ne viennent pas de Dieu. Il faut que le cœur soit pur. Il faut qu'il y ait une purification intérieure. Tous nous attendons avec droit l'effusion du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit viendra seulement dans un cœur pur, dans un vase pur. Se répandra seulement dans un vase pur. Et notre Seigneur a dit, vous êtes déjà pur à cause de la parole que je vous ai adressée. Jean 15. Paul dit et parle du lavage de l'eau, du lavage d'eau dans la parole que nous avons prise. Parle du lavage de l'eau, du lavage d'eau dans la parole que nous avons prise. Et tous nous comprenons que cela est réellement l'heure de Dieu pour nous prendre dans le lieu très saint et que la vie de Jésus par nous soit manifestée. Et que réellement le vieil homme soit dépouillé et qu'il n'y a rien de haine, de jalousie, de dispute, de querelle, de toutes sortes de choses semblables qui restent, mais que nous puissions, comme des enfants nouveau-nés, frais, nés de nouveau d'eau et d'esprit, pour que Dieu le Seigneur puisse recevoir ce qui lui revient de plein droit. Et que nous puissions aussi recevoir ce qui nous revient de plein droit par lui et en lui. Dans l'Ancien Testament, comme nous le savons tous, Exode 20, de 10 commandements, et ensuite nous lisons dans Jacques, chapitre 2, verset 10, ici cela est expliqué, Jacques, chapitre 2, verset 10. Jacques chapitre 2 verset 10. Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. L'explication. En effet, celui qui a dit tu ne commettras point d'adultère a dit aussi tu ne tueras point, etc., etc. Donc, on peut, si on lit les 10 commandements, certains sont exprimés très durs, tu ne dois pas tuer, tu ne dois pas commettre adultère, mais tous ces 10 commandements-là, dans ces 10 commandements, il y a un commandement que la plupart n'observent pas. Tu ne diras pas de faux témoignages contre ton prochain. Oui. Et maintenant, Dieu, déjà de nouveau, nous prend au coin et nous dit, écoute, c'est vrai, tu n'as pas commis d'adultère. Et je crois que chaque homme qui, quelque part, aurait commis adultère, je vous dis que l'homme, le mari de cette femme-là, aurait sonné chez lui. Sûrement que le mari de cette femme aurait sonné chez lui. On peut donc dire, je n'ai pas commis adultère, je n'ai tué personne, et on pense plein de propre justice, rien ne peut m'arriver. Et malgré tout, on est le plus grand calomniateur qui existe dans le pays. Et on marche son chemin, et on pense, rien ne peut m'arriver. Et la même chose, comme lors de la prière de ce pharisien et de ce douanier. Le pharisien était allé dans le temple et sa prière était, Seigneur, je te remercie de ce que je ne suis pas comme tous les autres et je ne suis pas, n'est-ce pas, comme ce douanier là ici. Oui. Et le douanier, lui, il se frappe la poitrine et dit, « Oh Dieu, fais-moi grâce à moi, pécheur. » Et l'autre est reparti orgueilleux. L'autre est reparti plein de grâce. Heureusement, la miséricorde de la grâce. Bien, le frère et soeur, celui qui brise un seul commandement est coupable de tout ce que Dieu a dit. Et c'est pour cette raison que nous devons aussi être attentifs à ces choses sur lesquels il est parlé rarement, que réellement notre langue, nous puissions la garder en bride pour ne pas être coupable. C'est très important. Et si le même Jacques écrit que la langue est allumée du feu de la géhenne, de l'enfer, et peut même brûler toute une forêt, dans Jacques 3, et que beaucoup d'autres par cela se souillent, au verset 5, de même la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Oh, combien disent quelque chose aux autres sans avoir fait des enquêtes, sans avoir cherché à savoir est-ce que c'est vraiment vrai ce qui est dit. Ils proposent des condamnations sans avoir parlé avec la personne. Et tous parlent de l'enlèvement. Personne en dehors d'eux parle plus de l'enlèvement que ces grands condamnateurs dans tout le pays. Oui, nous attendons l'enlèvement. Le Seigneur revient bientôt, oui. Et quand ensuite on dirait, si ensuite on dirait, vous attendez en vain à l'enlèvement, alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est Jacques 3, verset 6. Et ici est le point sur lequel nous voulons parler rapidement. Il s'agit que maintenant, Matthieu 25 trouve son accomplissement, est en train de trouver son accomplissement. Le cri et à entendre, les vierges folles et sages se réveillent, les unes ont des lampes, les autres ont un vase avec les lampes pour alimenter. Et ici est le point, et personne ici devrait se tromper, le mot vierge signifie sans être touché, qu'on n'a pas touché. Et si les enseignants de cet âge-là écrivent et disent que Marie n'était pas une vierge, mais une jeune fille, tous ceux-là qui pensent savoir quelque chose, le prétendent, ou bien pouvoir dire quelque chose, le prétendent, ils disent que on peut traduire cela aussi par jeune fille, par la vierge enfantera, mais la jeune fille enfantera. Ça, c'est satanique, comme ça peut l'être. Car ici, nous avons la comparaison entre Ève, par laquelle l'autre semence est entrée dans le monde, et Marie, la vierge, par laquelle la semence de Dieu est entrée dans ce monde, et la parole est devenue chair et a habité parmi nous. Et nous avons, n'est-ce pas, jusqu'à la fin, les preuves dans toutes les Saintes Écritures. Et de nouveau, arrivé à ce sujet, les hommes posent des questions et Dieu lui y répond. Nous ne sommes pas intéressés à une réponse d'un homme, seulement à la réponse qui vient de Dieu. Et vierges, les vierges sont pures. Elles se sont conservées pures, elles sont restées pures de toutes les interprétations et de toutes les fausses doctrines. Et si elles ne les étaient pas, si elles n'ont pas fait, elles vont revenir, elles vont se repentir et revenir au bon sens et se laisser sanctifier, purifier dans la parole de la vérité pour, n'est-ce pas, d'une manière nouvelle, ordonner leur détermination divine originale. Revenons encore à ce sujet, le mot vierge, folle et sage. J'ai aujourd'hui une lampe avec moi pour nous représenter devant les yeux ce qui nous est montré dans Matthieu 25. L'appel retentit, l'époux vient, levez-vous pour aller à sa rencontre. Les unes ont pris seulement les lampes et les autres ont pris le vase avec les lampes. J'ai, avec esprit, apporté cette lampe. Elle m'appartient. Elle m'a été offerte depuis beaucoup, beaucoup d'années. Ici, nous avons deux choses devant nous. Ici, nous avons l'huile. Ici, nous avons la mèche. Et ici, nous avons la lumière. La relation entre l'huile et la lumière doit être rétablie. L'onction, l'huile de l'esprit, devient lumière. Quand la relation est rétablie, et c'est de cette relation qu'il s'agit aujourd'hui. Ici l'huile. Ici la mèche. Imprégné dans l'huile. Ici la relation. D'en haut. Pour que ce qui ici est dans ce vase d'huile puisse être apporté vers le haut et transformé en lumière. Et que la lumière brille et soit manifestée. Bien-aimés frères et sœurs, ne restez pas dans les ténèbres comme les autres. Ne soyez pas dans les ténèbres comme les autres qui n'ont pas d'espérance. C'est dans le 5. Vous avez reçu la révélation par l'Esprit de Dieu, par la grâce de Dieu. Donc, de quoi il s'agit? Il s'agit de la relation avec Dieu. Il s'agit de l'onction du Saint-Esprit. Il s'agit de l'huile dans la lampe. Il s'agit que le Seigneur a dit qu'il ne permettra pas que la mèche qui brûle ne s'éteigne et que le roseau se brise. Mais il accordera sa grâce, il aidera. Il veut aider, et encore une fois aider. Et il nous dit, c'est encore le temps de la grâce. Oui, frère Rousse, c'est ainsi. Ici est l'huile. Ici est l'huile. Ici est la mèche. Personne n'a besoin d'aider. Ça va de soi-même, c'est automatique. Mais la relation est importante. La relation doit être rétablie. La relation doit être rétablie. L'huile, la mèche, et ensuite... Pas la relation entre l'huile et la mèche, la lumière. La lumière qui, au temps du soir, devait venir. La lumière paraîtra. Et la lumière apparut. La révélation que Dieu, par sa grâce, par l'Esprit de Dieu, nous a accordée, nous a placés dans la lumière, nous a éclaircis. Et c'est pour cette raison que nous ne sommes plus dans les ténèbres, mais nous avons la grâce d'être et de vivre dans la lumière. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur, dans le prophète Zacharie, le chapitre 4, a montré, n'est-ce pas, le chandelier en or et a montré aussi la relation. Car sur le chandelier de cette branche, il était surmonté d'un vase. Lisons cela dans Zacharie, le chapitre 4. Ici, nous avons la description de l'Église. De l'Église jusqu'à que nous allions dans Matthieu 24 ou bien alors 25. Mais ici dans Zacharie, le chapitre 4, à partir du verset 2. Zacharie chapitre 4, au verset 2. Il me demanda, que vois-tu? Que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout en or, surmonté d'un vase, donc un vase au-dessus de lui, et portant cette lampe, avec cette conduit pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Où est-ce que nous avons le chandelier de cette branche? Au-dessus du chandelier, le vase d'huile, et au-dessus de chaque chandelier, il y a un conduit qui fait répandre l'huile dans les lampes, pour les lampes. Ça, ce sont les sept âges de l'église, tels qu'ils nous sont montrés dans la parole prophétique, dans Zacharie 4, tel que, ensuite dans l'Apocalypse, cela nous est représenté devant les yeux. Chaque sept âges, chaque sept apses de temps, pendant le temps de l'église du Nouveau Testament et sept anges de l'église. Et cette fois, il est dit que celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit à l'église. Et ensuite aussi, celui qui vaincra héritera toutes choses. Bien, frères et sœurs, cela est déterminé par Dieu de cette manière, que nous puissions prêcher la parole d'une manière que tous ceux qui l'écoutent soient prêts lors du retour du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur. Et quand parfois, particulièrement dans de grandes réunions, je dis qu'un messager de Dieu a une plus grande responsabilité qu'un secrétaire de l'ONU ou bien alors un président d'État ou bien alors un chancelier fédéral. Ils ont seulement à prendre soin pour les choses terrestres dans la politique et tout ce qui serait lié à cela. Mais nous avons à prendre soin que chacun qui écoute la parole de Dieu de notre bouche prenne part au repas des noces de l'agneau par la grâce de Dieu. C'est notre responsabilité. C'est à ça que nous devons prendre soin. Et c'est peut-être raison que nous devons insister sur l'importance des choses. Maintenant, nous voulons voir la différence dans Matthieu 25. S'il vous plaît, pensez à cela. Le vase d'huile avec sept conduits pour les lampes. La relation devait être rétablie. Elle a été rétablie par le déversement du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Et l'huile de l'Esprit s'est répandue. Et le chandelier a reçu de la lumière, avait de la lumière. Et l'huile a été conduite dans les lampes. Et maintenant, la différence entre vierge, entre sage et folle. Les unes ont pris seulement les lampes, les autres ont pris aussi le vase avec elles. Aujourd'hui, j'ai apporté les deux. Les lampes et le vase. J'ai les deux ici. Oui, j'ai les deux ici aujourd'hui. J'ai les deux aujourd'hui ici. Cela est pris pour aller à la rencontre de l'époux. Pour aller à la rencontre de l'époux. Et quand ici, dans la lampe, l'huile cesse, alors j'ai la possibilité d'alimenter. Je descends le verre et je remplis la lampe. J'alimente la lampe. Mais bien, mes frères et sœurs, dans quel état sommes-nous? Qu'est-ce que nous avons? Avons-nous des lampes? Alors remercions Dieu pour la révélation de sa parole. Mais ça ne suffit pas. Nous voulons des lampes et nous voulons aussi le vase avec nous. Qu'est-ce qui était dans les vases? Dans les vases était l'huile. Et c'est ainsi que la lampe a été alimentée. Élie a dit à la veuve que dans le vase, l'huile ne manquera pas et la farine ne manquera pas. C'est que Dieu exauce. Bien, frères et sœurs, nous vivons dans un temps très puissant, très important. Et parfois, des exemples sont importants pour nous représenter devant les yeux. Que nous devons avoir les mains remplies dans l'une, les lampes, et dans l'autre, le vase, pour pouvoir remplir. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu est un Dieu fidèle, est un Dieu véritable. Et il conduit son peuple maintenant réellement dans le lieu très saint où réellement tout cesse, tout ce qui n'a rien à voir à faire avec sa parole et tout ce qui n'est pas en accord avec sa parole, et que réellement nous soyons trouvés dans la parfaite volonté de Dieu. Et maintenant la question: qu'est-ce que nous voulons être? Je pense que tous avec moi, vous êtes d'accord que nous voulons prendre part au repas des noces. Nous voulons entrer au repas des noces, n'est-ce pas? Je ne peux pas imaginer que des personnes entreprennent 1000 kilomètres par avion ou bien en voiture pour seulement écouter une prédication. Non, je crois que ce sont des heures de préparation que Dieu nous accorde par sa grâce. Et je crois que Dieu encore par sa parole parle avec nous. Et tant qu'il parle, tant qu'il peut encore parler avec nous, c'est ainsi que nous avons la certitude que nous sommes auprès de lui encore dans la grâce. Donc, les deux. Écoutez l'appel. Et ici est le point important. D'abord, l'appel à sortir a lieu tel que dans plusieurs versets bibliques. Oui, cela nous est dit. Dans l'Apocalypse, dans le chapitre 18, et dans 2 Corinthiens, le chapitre 6, vous, mon peuple, sortez du milieu de ne touchez à rien d'impur, séparez-vous. Ensuite, quand cela a eu lieu, et nous pourrions maintenant aller à Apocalypse 22, et pour vous montrer ce qui se passera dans le dernier acte de temps. Celui qui est impur, qui reste impur, celui qui commet l'injustice, qui continue à le faire, mais celui qui est saint se sanctifie encore plus, celui qui est pur se purifie encore plus. Dans le dernier moment sera manifesté qui et qu'est-ce que nous sommes. Et c'est peut-être raison que nous avons ces heures de préparation maintenant. Et je vous répète encore une fois, notre Seigneur a donné la promesse de ne pas vous pouvez voir quand une lampe brille longtemps, on peut remarquer que la flamme diminue, la flamme diminue. Personne n'a besoin ici de diminuer. Quand l'huile commence à finir, alors on peut voir comment est-ce que la flamme diminue et que ça devient seulement une faible lueur. Et donc la mèche qui brûle sans flamme arrive, la mèche brûle mais sans flamme, sans qu'elle ait une flamme. Alors ça veut dire que l'huile est finie. Vous connaissez pas toutes ces choses. Vous êtes né dans des régions bien. Moi je viens d'une région et je suis né entre Danzig, dans la région de Danzig, et j'ai pas honte de dire que dans la ville et dans le pays, dans la ville et dans le village, j'avais du courant, mais chez nous à la maison, dans la ferme, à la ferme, il n'y avait pas de courant. Oui, il n'y avait pas encore de courant. Il n'y avait pas de courant. Et je suis né dans une famille comme ça, sans courant, et j'ai grandi avec des lampes. Je connais très bien le fonctionnement d'une lampe. Donc, la mèche n'a plus de flamme, mais brûle encore. Et c'est un signe qu'il n'y a plus d'huile. Alors, c'est peut-être donc que le vase m'a aussi été offert. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour que je puisse vous montrer cela aujourd'hui devant vos yeux. Comment est-ce que c'est important d'avoir les deux dans les heures décisives lors du retour du Seigneur Jésus-Christ. Que justement, le Seigneur ne veut pas que la mèche qui brûle encore mais sans flamme s'éteignent. Non, ils veulent que nous puissions avoir des vases pour pouvoir alimenter la lampe. Et c'est ce que nous voulons aujourd'hui. Nous voulons aujourd'hui que la mèche ait une flamme forte pour que la lampe soit toujours alimentée d'huile. Et nous voulons aujourd'hui prendre notre décision. Écoutez la décision de Dieu. C'est lui qui a décidé. Il veut que nous ayons la grâce d'appartenir aux vierges. Sages, pas seulement vierges, mais sages. Et ça, je le prétends devant le Dieu Tout-Puissant. Il a décidé, il veut que dans ce temps, nous appartenions aux vierges sages, à ceux qui écoutent la parole et la mettent en pratique, qui prêtent l'oreille à ce que l'Esprit dit à l'Église. Et ensuite, nous arrivons à ce point, plus de propre chemin, plus de propre volonté, mais détermine-toi seul toutes choses. Et ici est le point important. Dieu en Christ et toute la plénitude de la divinité habitaient corporellement en Christ. Et vous possédez toute cette plénitude en lui. Colossiens 2, verset 9. Et ensuite à cette parole, où est-ce que c'est écrit de Romains? Romains chapitre 5. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Romains chapitre 5, verset 4. L'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Dans Romains 5, Romains chapitre 5, verset 4. La persévérance, la victoire. Dans l'épreuve et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Qui nous a été donné. Bien, frères et sœurs, nous devons dans la foi, bon, ne pas crier à haute voix, mais demandons au Seigneur, baptise-nous d'esprit et de feu. Remplis-nous du Saint-Esprit. L'amour est contenu dans ce que Dieu a promis et tout doit et est contenu dans l'amour de Dieu. Et ensuite, nous avons 1 Corinthiens, le chapitre 13. 1 Corinthiens, le chapitre 13, à partir du verset 1 déjà. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Oui, ça nous ne le voulons pas. Nous ne voulons pas l'être. Ensuite au verset 4. L'amour est patient et plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Le verset 5, il ne fait rien de malhonnête. En allemand, il ne dérange pas les autres. Au verset 6, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Il excuse tout. En allemand, il couvre tout. Alléluia, alléluia. Ça, c'est la nature de Jésus-Christ. Notre Seigneur, qui peut être manifesté quand l'amour de Dieu par le Saint-Esprit est déversé dans nos cœurs. Alors tu ne fais pas comme ça un beau visage avec le poing dans la poche, mais avec la main dans la poche, mais la main reste dehors, vue de tous, sans poing, et puis tu as une bénédiction pour les autres, il t'accorde ta grâce, il accorde la force pour surmonter l'épreuve. Et la réussir. Qu'est-ce qui a été dit à Frère Branham alors que de son vivant il avait été ravi dans le paradis et qu'il avait vu une foule qu'on ne peut compter de personnes qui vinrent à lui et tous ont dit: notre bien-aimé frère, nous sommes tellement heureux de t'avoir ici, de te voir ici. Et ensuite ils ont dit, si tu n'étais pas allé, nous ne serions pas ici. La prédication est nécessaire pour appeler à sortir. Bien, frères et sœurs, est-ce que vous pensez que frère Frank, comme passe-temps, donc dans un mois, est à l'extrême du nord de l'Europe, 6 heures de différence, ensuite, perd 8 heures de différence en tout, en 2 jours. Il doit supporter 8 heures de différence d'ici et là, d'un continent à un autre. Est-ce que vous pensez que je voyage de continent en continent simplement parce que je veux voyager en avion? J'ai entrepris plus de 3 millions de kilomètres par avion et je n'ai même plus envie de le faire. Et celui qui passe par tous les contrôles des douanes et tout ça n'a plus envie de le faire. Mais pourquoi est-ce que nous allons? Parce que Dieu nous a ordonné de le faire. Nous avons un ordre, un appel, un envoi. Nous avons reçu le message de Dieu que nous devons porter. Et le message est vrai. C'est les promesses de Dieu, la parole promise de Dieu pour ce temps. Il est aussi certain que 41 fois de la bouche de frère Branham, cela vint. Tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Christ. C'est ainsi que tu es envoyé avec un message qui sera précurseur du retour de Christ. Le Seigneur a repris le messager, mais le message nous est resté et nous le portons. Nous portons le message dans sa forme pure, avec véracité, dans tous les peuples, les langues et les nations. Et l'épouse qui est appelée à sortir est une épouse pure parole. Une épouse parole pure, sanctifiée dans la parole de la vérité, par le Saint-Esprit. Donc, bien-aimés frères, prenez courage. Frère Daniel de la Roumanie, prenez courage. Le frère du Guadeloupe, de la Guadeloupe, prends courage. Frère Gilbert, prends courage. Tous les frères dans le ministère, tous les frères. Le frère Andraschek, le frère Alman, le frère Witt, et tous. Où est le frère? Je ne vois pas en ce moment. Notre frère Koukatchak, il est sûrement quelque part. Il écoute toujours dans l'humilité. Dans toute humilité, on peut rarement l'entendre. Ou bien alors le voir. Personne n'entend, écoute mieux que lui, c'est-à-dire nous tous et lui aussi. Bien, frères et sœurs, je pense à cela. Je veux dire cela. Que avec une vocation sainte de la part de Dieu, nous l'avons reçue. Pour porter le message divin, le dernier message divin dans le monde entier, et nous devons dire, s'il vous plaît, faites en sorte que votre flamme soit forte. Faites en sorte que la flamme, la mèche qui brûle encore ne soit pas sans flamme, mais qu'il y ait assez d'huile dans la lampe pour que la flamme reste et que la lueur ne soit pas faible. Et la lampe nous permet de voir le chemin. Et c'est ce qui est important. Celui qui a une lampe, il voit le chemin, mais il ne voit pas le chemin à 10 km ou bien à 5 km. Il voit seulement comment est-ce que faire le prochain pas et où faire le prochain pas. C'est la longueur de la lampe, de la lumière de la lampe, ça lui suffit pour faire le prochain pas. Mais une très grande leçon, n'oubliez surtout pas le vase, la plénitude. La plénitude. Dieu a la plénitude. Quoi qui t'afflige, dit un cantique. Et Paul écrit, vous possédez toute cette plénitude en lui, qui est le chef, la tête, le chef de toute puissance, de tout pouvoir. Jésus-Christ est vainqueur. Il est le oint. Il est le oint. Et nous avons la grâce d'être oint du Saint-Esprit et porteur de la parole de Dieu. Il est le chef de toute domination et de toute autorité. Colossiens 2, verset 10. Et cela doit être dit avant que l'appel en général ait retenti. N'est-ce pas? Tout le troupeau va s'élever. Pas un ministère, un homme qui se lève pour réveiller l'épouse ou bien pour apporter un message, mais tous ceux qui ont prêté l'oreille à l'appel, qui ont prêté l'oreille au message, vont s'élever pour aller à ce moment-là à la rencontre de l'épouse. Et ça, c'est Apocalypse 22. Alors, ce n'est pas un ministère particulier. C'est peut-être la raison que nous n'avons pas besoin d'un huitième messager ou bien d'un troisième messager. Nous avons besoin du message de Dieu que le Seigneur nous a envoyé. Et à ce moment-là, l'Esprit et l'épouse diront, viens Seigneur Jésus. Apocalypse 22, verset 17. Bien, frères et sœurs, nous attendons dans ce temps. Nous voyons dans ce temps, nous expérimentons dans ce temps. Le dernier acte de temps de l'histoire du salut. Nous n'avons pas pu pendant ce week-end parler dans les détails d'Israël et des événements sur terre. C'était vraiment dans le cœur depuis le dimanche de Zurich. Oui, aujourd'hui, il y a une semaine d'ici, à Zurich. Cela m'a saisi de tout mon cœur, Apocalypse 22, verset 17, que je ne pouvais plus le garder pour moi. Voici, l'époux vient, Matthieu 25. Levez-vous pour aller à sa rencontre. Remplissez les lampes. Remplissez les vases. Ayez les deux. Car l'heure de minuit arrive. Autant que soit la lumière paraîtra, Dieu a accordé la lumière. Amen. Et nous allons maintenant vers l'heure de minuit. Vers l'heure de minuit. Nous allons. Bien, frères et sœurs, dans mon cœur, cela lui loue. Cela, dans mon cœur, cela exalte. Car Dieu, d'éternité en éternité, nous a déterminés à ce que dans ce temps, nous puissions écouter ta vraie parole et t'appeler à sortir, sanctifié et mis à part dans ta parole et rempli du Saint-Esprit. Et c'est ainsi que lors du retour du Seigneur Jésus-Christ, nous serons prêts. Notre Dieu soit la louange, l'adoration. Lui, tel que nous l'avons lu il a juré par lui-même que ce qu'il a promis, il accomplira. Ce qu'il s'est résolu de faire, ce qu'il s'est résolu de faire. Qui peut changer ce que Dieu, d'éternité en éternité, a planifié et maintenant exécute? N'importe quelle épreuve pourront venir, quoi qu'arrive, tout va nous rapprocher du Seigneur. Et que Dieu réellement, à cet endroit, puisse nous bénir, et tous les frères et toutes les sœurs qui sont liés avec nous et avec le Seigneur, qui puissent nous bénir dans toutes les langues, les pays du monde. Cela me réjouit au-dessus de toute mesure, de ce que nous avons la possibilité avec tous maintenant en cette langue d'être liés. Et quand je pense à nos frères et sœurs de la Finlande, aujourd'hui, ils sont ici. Mais s'ils n'étaient pas ici, là-bas, ils ont les appareils allumés et ils voient et ils écoutent. Et ils